4, à partir du verset 17, jusqu'au chapitre 5, verset 2. Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants, qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné, conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre, et se détruit sous l'effet des désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne laissez aucune place au diable. Que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et à transmettre une grâce à ceux qui les entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et plein de compassion les uns envers les autres, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu.
Je vous invite à garder vos Bibles ouvertes et puis on va prier. Prions. Merci Seigneur pour ta parole qui est vivante, qui nous parle, qui nous transforme. Et nous voulons te demander de faire justement ça ce matin, de vraiment transformer nos cœurs, faire en sorte que nos cœurs brûlent en entendant ta parole. Aide-nous aussi à la mettre en pratique cette semaine. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Amen. Alors, tout le monde sait que la foi chrétienne véhicule certaines valeurs. Alors, les valeurs chrétiennes. Alors, on dit que les droits de l'homme s'inspirent de ces valeurs-là. L'honnêteté, la patience, l'humilité, le service, ainsi de suite. Alors, jusqu'à un certain point, notre société apprécie ces valeurs. Mais seulement jusqu'à un certain point. Car elle vit moins bien les notions de sacrifice ou de pardon généreux, ou elle n'en a cure de la chasteté ou la pureté sexuelle ou la probité financière. Bon, tout ça, elle s'en accommode plus ou moins. Et même si certaines valeurs chrétiennes sont fort appréciées, fort probablement nos contemporains sont lassés d'une religion chrétienne qui perçoivent comme étant une longue liste de choses à faire ou à ne pas faire. Et parfois, ils sont là de la perception, parfois très justifiée d'ailleurs, que l'Église ne vit pas en adéquation avec la moralité qu'elle fait peser sur les autres. Alors ce matin, notre texte est très concret. Il y a beaucoup d'exhortations fortes. L'apôtre Paul ne coupe pas les cheveux en quatre. Il n'y va pas par quatre chemins. Dans cette partie de sa lettre qu'il écrit à l'église d'Éphèse, donc à cette ville imprégnée de la culture païenne, dédiée à Diane, au temple d'Artémis, Paul veut parler de la vie chrétienne, des valeurs chrétiennes, du comportement qui scie aux croyants. Alors certains d'entre vous sont déjà en train de vous demander, alors qu'est-ce qu'il va dire au sujet du vol ? Téléchargement illégal de l'Internet. Qu'est-ce qu'il va dire au sujet de la colère ? Est-ce que je vais être d'accord avec lui ? Alors peut-être si vous n'êtes pas chrétien, vous êtes là juste pour un peu enquêter sur la foi chrétienne, peut-être vous êtes en train de vous dire, ça y est, je le savais, je n'aurais pas dû venir, c'est vrai, la foi chrétienne, voilà, elle est profondément rabat-joie, etc. Alors pour être franc, c'est vrai, c'est un passage qui va mettre son doigt sur quelques aspects de notre vie, sur des aspects de nos vies individuelles, mais aussi notre vie en tant qu'Église. Je pense que ce passage a quelque chose pour chacun de nous. En tout cas, pour moi, c'était vraiment bien pour moi de passer la semaine à réfléchir à ce que ce passage pouvait me dire, m'en servir comme un miroir sur ma vie. Mais en même temps, ce passage ne va pas nous accabler. Non plus. Comme les Écritures de manière générale, il va nous conduire à notre Seigneur, à Jésus-Christ, à la grâce de Dieu, à son pardon généreux, à l'amour du Père, cet amour qu'il a pour chacun de ses enfants. Alors, on va commencer avec une section que j'ai intitulée « Choisissons d'apprendre Christ, croyant la vérité ». Je vais juste bouger ça un peu. Alors, au verset 17, Paul dit avec beaucoup d'emphase, « Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants. » Alors, littéralement, le mot pour conduire, c'est le mot « marcher ». Il est question de notre marche quotidienne, dans la vie quotidienne. Et c'est un mot qui revient à plusieurs reprises dans cette lettre aux Éphésiens. Nous l'avons déjà vu au chapitre 2. Sauvé par la grâce au moyen de la foi seule, pour faire de belles œuvres, pour marcher dans ces belles œuvres. Et au début du chapitre 4, donc on l'a vu il y a deux semaines, au début de cette section que nous avons entamée il y a deux semaines, donc cette section concrète et pratique de la lettre, Paul avait enjoint aux chrétiens d'Éphèse, je cite, « Je vous encourage donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher ou à vous conduire, à marcher d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité, en douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. » Alors, c'est pas toujours facile de faire ça, n'est-ce pas? Même en Église, même en tant que chrétien, même parmi les chrétiens. Je pourrais vous exhorter à être plus humble, plus doux, plus patient, plus aimant les uns avec les autres, jusqu'à en perdre haleine. Je pourrais l'appeler de mes voeux, selon la formule chère à nos hommes politiques, mais tu comptes fait. Je ne suis pas sûr que ça changerait quelque chose. Tout ça est difficile, n'est-ce pas? Et quand c'est difficile, on risque de d'ériger une simple façade pour faire bonne impression, pour montrer une semblance de piété, pour dissimuler nos vices cachés. Mais lorsque l'apôtre Paul nous exhorte à marcher d'une manière digne de l'appel, digne de Jésus-Christ, il nous montre comment y arriver aussi. Il nous donne les moyens. Et les moyens ne sont pas une simple exhortation à mieux faire. Alors dans les versets précédents, Paul nous a montré l'ADN de l'Église. Est-ce que vous vous en souvenez? C'était il y a deux semaines. Nous avons parlé de l'enseignement biblique qui équipe chacun pour le service mutuel. Et par ce service mutuel, l'Église tout entière se construit dans l'amour. Et ce service mutuel est marqué par quelque chose en particulier, donc quelque chose de très important. Et on le voit au verset 15 du chapitre 4, donc juste deux, trois versets avant. Jetez un coup d'œil sur le verset 15. « Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. » Et cette vérité-là, qu'il faut dire dans l'amour, c'est la vérité de l'Évangile. Ses implications et ses applications. C'est comme ça que l'Église grandit ensemble, que nous devions de plus en plus conformes à Jésus-Christ en disant la vérité dans l'amour les uns aux autres. Et ici, dans la suite du passage, nous voyons comment ça va fonctionner concrètement. Comment cet ADN de croissance, comment est-ce qu'il va se mettre en route et nous aider à marcher d'une manière digne du Seigneur, d'une manière avec un comportement qui tranche avec le comportement du monde qui nous entoure. Et peut-être en particulier le comportement que nous avions avant de rencontrer le Seigneur. Et dans ces premiers versets, l'apôtre Paul parle d'une bataille. Le plus dur dans les batailles qu'on a vues récemment à la télé, donc on peut penser aux batailles en Irak, en Afghanistan, c'est plutôt la bataille pour gagner des cœurs. La confiance des populations locales, la pensée de la population locale. Les armes lourdes ne pouvaient pas parvenir à changer la pensée des gens. Il fallait les convaincre. Et cette bataille pour le chrétien se joue aussi au niveau de la pensée. Il s'agit d'une bataille entre l'ancienne et la nouvelle façon de penser. Est-ce que vous voyez les mots qui décrivent la pensée dans ces premiers versets ? Le verset 17 parle de la sottise. C'est vraiment très fort. Ensuite, le verset 18 évoque notre intelligence obscurcie, notre ignorance, notre endurcissement de cœur. Cet état des choses faisait de nous des étrangers à la vie de Dieu, c'est ce qui est marqué. Nous étions loin de lui, aliénés. Alors pour certains, ça peut sembler peut-être un peu fort de café. Donc. Mais en tout état de cause, il faut juger sur pièce. Et Paul nous dit que cette ancienne vie, cette ancienne façon de penser, nous conduisait à la débauche, à l'avidité de toutes sortes d'impuretés. Alors notre société séculière peut avoir un discours très moralisateur. La liberté prise dans les années 60 nous est présentée de manière très morale. L'avortement nous est présenté de manière morale, comme un droit morale. Les mœurs sexuelles modernes nous sont présentées comme le fruit d'une pensée éclairée, tolérante. Mais il faut les juger sur pièce. Et le fruit de cette pensée-là est néfaste, déstabilisant pour notre société. Elle nous fait du mal, tant sur le plan individuel que sur le plan collectif. Alors, ce n'est pas toujours facile d'y voir clair, parce qu'il s'agit d'une bataille pour la pensée. Et la pensée non chrétienne ne va jamais se présenter comme étant néfaste, mais comme étant bonne ou libératrice ou séduisante. Mais vous, verset 20, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Ou littéralement, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Est-ce que vous voyez ça au verset 20? Fondamentalement, le chrétien a appris Christ. Alors, c'est la seule fois que Paul utilise cette métaphore-là. Nous avons appris une personne. Le verset 21 nous dit que nous l'avons écouté, nous avons entendu sa voix, et ensuite nous avons été enseignés en lui, conformément à la vérité qui est en Jésus. Dieu ne fait jamais l'économie de notre pensée. Certes, Dieu est un Dieu des émotions, et Dieu veut que nos cœurs soient saisis même de manière émotionnelle, saisie par la vérité qui est en Jésus. Et pour y arriver, il ne fait jamais l'économie de notre pensée. Nous avons appris Christ. Nous avons écouté la voix du bon berger. Nous avons reçu ses enseignements, cette vieille histoire de Jésus et son amour, l'histoire de la croix, l'évangile, cette vérité que nous devons dire les uns aux autres dans l'amour. Cette vérité évangélique qui concerne la vie, la mort, la résurrection de Jésus. Tout ça nous a appris à faire trois choses. Donc ça, c'est un peu la tactique qu'il faut employer pour remporter cette bataille. Trois choses. Est-ce que vous les voyez au verset 22 à 24? Premièrement, il faut nous débarrasser de notre vieil homme, notre ancienne manière de vivre, notre ancienne manière de penser. C'est un rejet d'une pensée et d'une vie aux antipodes de celle de Dieu. Nous avons dû l'enlever comme un vieux t-shirt un peu crade. Ce que Paul décrit ici, c'est la repentance. La repentance sincère dépasse le simple remords. C'est une question de vrai changement, où on quitte notre ancienne manière de vivre, notre ancienne manière de penser. Alors personne ne prétend que c'est facile. Deuxièmement, au verset 23, nous lisons qu'il s'agit de se laisser renouveler, littéralement, dans l'esprit de notre intelligence. Alors, dans notre version, dans les Bibles blanches, là, le traducteur a dit « par le Saint-Esprit ». Alors ça, c'est possible. Littéralement, c'est dans l'esprit de notre intelligence. En tout cas, le renouvellement a lieu dans notre intelligence, dans notre cœur, dans notre pensée. Alors, l'un de mes films préférés s'appelle « Le Parrain ». C'est un film qui trace l'histoire d'une famille new-yorkaise qui fait partie de la mafia. L'histoire va sur plusieurs générations. Et dans le dernier des trois films, le parrain rencontre le pape. Le parrain s'est rendu au Vatican pour les affaires, pour faire de l'argent. Mais le pape essaie de le conduire à la repentance, à se débarrasser de son fardeau de culpabilité qui est si évident chez lui. Et à un moment donné, le pape, qui se trouve à côté d'une fontaine, repêche du fond de la fontaine quelques cailloux. Il arrive à casser un de ces cailloux et il lui dit « Vous voyez, c'est mouillé à l'extérieur, mais c'est sec à l'intérieur. C'est comme l'Europe. Elle s'est baignée dans l'eau du christianisme pendant des siècles, mais l'évangile n'est jamais entré dans son cœur. » Bon, moi, je trouve que c'est une observation très perspicace. Ce renouvellement du cœur, de l'intelligence, c'est quelque chose d'essentiel. Il faut que nous mettions l'évangile dans nos cœurs si nous allons nous débarrasser de notre ancienne manière de vivre, notre ancienne manière de penser, si nous allons porter des fruits dignes de Jésus-Christ. Et c'est justement ça la troisième partie de cette tactique pour que nous avons appris en Christ. Verset 24, il s'agit de vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Cet homme nouveau, c'est Jésus-Christ. Nous l'avons vu tout au long de cette épître. C'est en lui que Dieu est en train de réunir toutes choses dans le ciel et sur la terre. Et par la grâce seule, nous avons été ressuscités en lui. Nous sommes en lui. L'Église est sa nouvelle humanité. Nous avons été recréés, refaçonnés, refaits pour vivre autrement, pour vivre d'une manière digne de lui, pour revêtir Jésus. D'une manière juste, donc, c'est-à-dire d'une manière où la justice règne parmi les hommes, entre les hommes, d'une manière sainte, où on vit pour Dieu selon ses voies. Alors, est-ce que vous reconnaissez ce logo? Enfin, c'est le logo d'un fabricant de processeurs d'ordinateurs. Moi, je ne suis pas très fort en informatique, mais à ce que je sache, c'est le processeur qui fait tourner l'ordinateur. Nicolas me dira le contraire peut-être après, mais c'est plus ou moins ça, oui? Oui, c'est ça, oui. C'est bien. Et ce logo indique au consommateur qu'il y a un processeur à l'intérieur de l'ordinateur de la marque Intel, une marque de qualité bien sûr. Ce processeur puissant de qualité fait fonctionner l'ordinateur. Et le verset 24 nous dit que le processeur qui fait tourner le chrétien en quelque sorte, qui fait fonctionner le chrétien, est la vérité. Est-ce que vous voyez ça? Donc l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté, que produit la vérité? C'est la vérité qui produit la justice et la sainteté dans nos vies. Il faut que l'évangile de la grâce, donc la vérité, l'évangile de Jésus et son amour, anime notre pensée et notre cœur si la justice et la sainteté vont être produites dans nos vies. c'est la vérité qui produit ce changement. Mais gare à la passivité. Cela implique un choix. Cela mobilise notre volonté. On se débarrasse activement de notre vieil homme. On se laisse renouveler par la vérité. On se revêt activement de Jésus-Christ. Ce n'est pas chose facile. C'est dur, c'est une bataille. C'est une bataille qui n'est pas faite de victoires simples. Mais cela vaut la peine. C'est la voie de la nouvelle humanité en Jésus-Christ. C'est une vie de justice, de sainteté. C'est une vie de beauté en Jésus. Car aussi au défaitisme. Certes, le chrétien ne changera pas du jour au lendemain, c'est sûr. Il ne peut pas changer comme ça au claquement des doigts. Mais cette vérité qu'est l'évangile, cette grâce est puissante. On peut faire de progrès réels et tangibles. Et l'apôtre Paul nous donne quelques exemples très concrets qui impliquent notre vivre ensemble, la vie communautaire de l'Église. Il veut nous montrer comment la vérité explosive de l'évangile, de la grâce, doit façonner notre vie chrétienne, notre vie d'Église, pour que nous marchions d'une manière digne de l'évangile, d'une manière digne de notre appel, dans la douceur, avec patience, nous supportant les uns les autres dans l'amour. Alors pour ceux qui prennent des notes, voilà le deuxième titre que j'ai donné à la deuxième section. Donc c'est une question, manifestons-nous le fruit de la vérité dans nos vies. Nous sommes au verset 25 et Paul lit ce verset 25 de manière étroite à ce qu'il vient de dire. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Alors Paul est en train de nous donner un exemple de ce que cela veut dire de nous débarrasser de notre vieil homme, de nous laisser renouveler dans l'esprit de notre intelligence par l'Évangile et à nous revêtir de notre homme nouveau qui est Jésus-Christ. Le vieil homme avec sa pensée pourrie est marqué par le mensonge, les faussetés. Lorsqu'on dit des mensonges, c'est une forme de haine à l'égard de notre interlocuteur. On les trompe, on les traite indignement. On casse la confiance. Le comportement du croyant, celui qui est en train de se revêtir de Jésus-Christ, est marqué par le fait qu'il dit la vérité. Il est honnête. Il ne ment plus à son prochain. Il respecte. Et ensuite, Paul nous donne la raison. Est-ce que vous voyez ça à la fin du verset 25? Car nous sommes membres les uns des autres. Là, il s'agit du renouvellement de l'Évangile. Le chrétien doit se rendre compte qu'il a été uni à Jésus-Christ et uni à ses frères et sœurs, sa nouvelle famille en Jésus. Il n'est pas seul, il fait dorénavant partie d'un seul et même corps. Si les yeux mentent aux jambes, ne communiquent pas aux jambes qu'il y a beaucoup de circulation sur la route et qu'il faut attendre avant de traverser la route, bah le corps est en mauvaise posture. Les mensonges détruisent le corps. Mais la vérité le construit. La confiance s'instaure, on peut travailler ensemble, c'est un signe d'amour, de l'amour fraternel. Alors c'est l'Évangile qui nous apprend à nous aimer les uns les autres, et cet amour nous apprend à cesser de raconter des mensonges et à dire la vérité. Il y a toutes sortes de mensonges, petits mensonges, grands mensonges, mais il faut éviter les deux. Les exagérations, les mauvaises excuses pour sauver la face font partie de ces mensonges qui, mine de rien, finissent par faire du mal au corps de l'Église. Mieux vaut l'honnêteté et l'humilité. Ça crée ou ça montre la justice et la sainteté. Ça montre que nous sommes vraiment un corps en Jésus-Christ. C'est une démonstration de qui nous sommes devenus en Jésus. Alors, est-ce que vous voyez comment ce modèle se répète pour tous les exemples que Paul donne dans cette partie de la lettre? Il commence en disant quelque chose de négatif, ce qu'il ne faut pas faire, ou on doit se débarrasser de cette chose, et ensuite il montre la voie positive, ce qu'il faut faire, comment il faut se revêtir de Jésus. Et ensuite, dans un troisième temps, il donne la raison, un raisonnement, la nouvelle pensée renouvelée, qui sous-tend cette nouvelle manière d'agir. Il s'agit de mettre l'Évangile dans nos cœurs. On peut prendre l'exemple de la colère, donc au verset 26 et 31. Donc verset 26 et 27, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. » Et puis au verset 31 et 32, « Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonnés en Christ. » Alors lorsque nous nous mettons en colère, c'est très difficile de ne pas tomber dans le péché. Alors la colère est parfois suscitée par l'injustice. Mais notre colère risque de nous emporter et de nous remplir d'amertume. Le commentateur du texte a dit, je cite, « Il y a une place pour la colère sainte, les saintes colères. Mais il y a aussi la tentation subtile de voir la colère chez soi comme relevant de l'indignation juste et la colère des autres comme celle qui découle de la pure mauvaise humeur. Si notre colère n'est pas libre d'orgueil blessé, de malice, d'un esprit de revanche, elle est devenue entachée de péché. » Fin de citation. Le verset 26 est une citation du psaume 4. Et dans le psaume 4, le psalmiste nous conseille, donc je cite, et voilà, on a notre citation, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Parlez dans votre cœur, sur votre lit, et faites silence. » Ça veut dire donner votre colère à Dieu. C'est lui qui venge le mal. Si on la garde dans nos cœurs, on laisse une place au diable, on laisse une place à l'amertume qui va donner lieu à toutes sortes de péchés. On le voit au verset 31, il y a comme quelque chose qui va en croissant. L'amertume, la fureur, la colère, l'éclat de voix, la calomnie et toute forme de méchanceté. Alors parfois, il faut aller voir quelqu'un pour vous réconcilier avec lui, donc de le faire vite après une fois qu'il y a eu un problème. Mais il ne faut pas y aller dans la colère ou avec la colère pour exprimer notre colère. Il vaut mieux avoir déposé cette colère aux pieds du Seigneur avant d'y aller, pour être en mesure d'y aller avec un esprit de pardon. Est-ce que vous voyez ça au verset 32 ? Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonnés en Christ. C'est le pardon de Dieu que nous avons reçu qui doit façonner notre comportement. Notre colère ne produit pas la repentance chez l'autre. Notre modèle est celui de Dieu lui-même, qui nous a pardonnés en Jésus-Christ. Dieu ne vient pas envers nous avec sa colère. Dieu a de quoi se mettre en colère. C'est sûr, on a fait plein de choses dans la vie qui peuvent susciter sa colère. Mais avant même que nous ne soyons nés, il a déjà tout mis en œuvre en Jésus-Christ, à la croix, pour que sa colère puisse être satisfaite de manière juste. Et du coup, il peut venir vers nous avec compassion, avec bonté et avec miséricorde. Et c'est sa bonté, sa miséricorde, sa compassion qui nous en conduit à la repentance, à la réconciliation. Et il faut que l'évangile de sa bonté, de sa compassion, il faut que cet évangile anime notre pensée pour nous aider à nous débarrasser de l'amertume, de la méchanceté, de la calomnie, pour nous aider à déposer à ses pieds notre colère, pour nous aider à voir plus clair, avoir la part de notre orgueil blessé, pour aussi lui remettre la vengeance. C'est son évangile de bonté, de compassion qui nous permettra de montrer cette bonté, cette compassion envers ceux qui nous blessent de temps en temps, à ceux qui ont besoin de notre pardon. Et c'est ainsi que l'évangile nous apprend à nous supporter les uns les autres dans l'amour. Alors, je résume, lorsque quelqu'un vous blesse ou vous fait du mal, la première étape est d'apporter votre colère au Seigneur dans la prière. De laisser renouveler votre pensée par sa bonté, par l'évangile de la grâce. Vraiment de mesurer l'ampleur de nos propres dettes qui ont été remises par Dieu. De lui laisser le jugement. Et ensuite, si besoin est, s'il y a eu une rupture de relation avec la personne, d'aller voir cette personne, d'aller voir ce frère, cette sœur, ou simplement votre prochain, pour chercher son bien, pour lui proposer votre pardon, dans la paix, dans l'amour, sans esprit de vengeance, sans chercher à avoir raison sur tous les points. Le but est toujours de restaurer votre frère ou votre sœur. Alors c'est difficile, ça j'en conviens, c'est pas facile, et on ne peut y arriver si nous n'avons pas l'évangile dans nos cœurs. Sans l'évangile dans nos cœurs, on a du mal à déposer notre colère. On a du mal à pardonner. On a du mal à ne pas chercher la vengeance ou à faire justice nous-mêmes. Alors l'autre exemple que Paul nous donne est celui du vol. Paul nous invite à nous débarrasser de notre vieil homme qui exploite ou qui est tenté d'exploiter tout le temps les richesses des autres et simplement à travailler nous-mêmes de manière honnête. Et le raisonnement qui découle ou qui est donné découle de l'évangile. Nous sommes appelés à la générosité. Ça, c'est la marque du chrétien. Celui qui est le bénéficiaire de la bonté de Dieu cherche à partager cette bonté avec d'autres. Non pas, il ne cherche pas à prendre de ses frères et sœurs, mais à leur faire du bien. Du coup, même notre travail dans la semaine, aussi pénible qu'il soit, devient l'instrument par lequel nous pouvons vivre cette vie qui est digne de l'appel que nous avons en Jésus-Christ. L'évangile nous change. Il est la puissance qui nous sauve dans l'éternité, mais l'évangile est également la puissance pour vivre autrement aujourd'hui. Alors Paul finit cette section en allant au cœur de l'évangile. Cet évangile qui nous change. Il nous rappelle le message de la croix, donc versets 1 et 2 du chapitre 5. « Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande, un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. » Chers frères et sœurs, amis en Christ, comment vivre d'une manière digne de l'appel? Comment vivre en humilité, en douceur, avec patience, nous supportant les uns les autres dans l'amour? Revenons à Christ. Revenons à la grâce de Dieu. Revenons au pied de la croix où Dieu nous a montré l'immensité, l'énormité de son amour. Redisons-nous la vieille histoire de Jésus et son amour. Mettons la vérité dans nos cœurs. Buvons à ce puits-là, comme la femme samaritaine dans l'évangile de Jean, jusqu'à ne plus en avoir soif. Lorsque la colère nous envahit, lorsque l'amertume nous attrape, lorsque nous sommes tentés de ne pas montrer de la générosité, lorsque nous sommes tentés de nous laisser aller par le désir de proférer des paroles malsaines, des paroles cassantes, décourageantes, critiques, souvenons-nous que Dieu le Père nous a aimés lorsque nous étions ses ennemis, que le Fils s'est donné pour nous, pour notre pardon, que l'Esprit Saint habite en nous, nous sommes le temple de Dieu, que nos frères et sœurs font partie du même corps et qui font partie de ce même temple. Soyons émerveillés par l'ampleur de la grâce. Nous sommes à lui, par la grâce seule, au moyen de la foi seule, nous n'y avons rien contribué, nous n'avons rien mérité. Et fort de cette grâce-là, revêtons-nous du pardon, de la paix, de paroles encourageantes qui édifient, qui communiquent une grâce. Revêtons-nous de Jésus-Christ. Je vous invite à la prière. Prions. Merci notre Père de ce que tu es venu nous chercher lorsque nous étions loin de toi, lorsque notre pensée était aux antipodes de la pensée de Jésus-Christ, lorsque nous étions tes ennemis.
Et Père, merci de nous avoir ramenés à toi par la grâce seule. Merci d'avoir tout mis en œuvre en Jésus à la croix pour que ta juste colère puisse être satisfaite et pour que tu puisses nous montrer toute ta compassion, toute ta grâce. Père, nous voulons te demander de nous aider à vraiment mettre cet évangile dans nos cœurs. Aide-nous à vraiment vivre de cet évangile. Puisse cet évangile imprégner nos cœurs de façon profonde pour nous aider à vraiment nous débarrasser de tout ce qui te déplaît et à nous revêtir de Jésus-Christ. Aide-nous cette semaine à vivre de cette grâce. Aide-nous à repérer là où nous avons besoin de faire des progrès. Aide-nous à nous repentir de ces choses et fort de la grâce, partez dans un autre sens, suivant à la suite de Jésus, en nous revêtant de son caractère, de sa personne. Père, nous te demandons vraiment de nous aider en tant qu'Église à faire ça, de faire ça de manière collective, communautaire, pour que nous soyons une Église qui marche à ta suite, qui vit d'une manière digne de l'appel que nous avons reçu ensemble en Jésus-Christ. Nous voulons vraiment te demander de nous aider par ton esprit à faire ça, cette semaine et dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Amen.